Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute!
De plus en plus de personnes me contactent, m'appellent, m'envoient des mails en me demandant quels sont les critères importants pour choisir une bonne école pour leur enfant. Donc souvent, c'est par rapport justement à la pédagogie Montessori, puisque comme vous savez, Montessori étant devenue très à la mode ces dernières années, de nombreuses personnes ont créé des écoles Montessori, et en n'étant pas forcément formées, en sachant pas forcément qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que signifiait la pédagogie Montessori. Donc, tant au niveau des écoles que des objets qui sont en vente, souvent les parents, les adultes, les enseignants, etc., ne savent pas trop comment s'y retrouver avec tout ce qui est proposé aujourd'hui et qui n'est pas forcément conforme à ce dont Maria Montessori parlait et à ce qu'elle expliquait qui était important pour elle. Donc j'ai eu envie, puisque encore hier sur Facebook, quelqu'un s'installait à Rouen et demandait comment trouver une bonne école proche de la pédagogie Montessori pour son enfant. Donc j'ai vraiment eu envie de faire cet épisode aujourd'hui pour vous aider à vous y retrouver. Donc le mieux d'abord pour appréhender une école et savoir si elle est vraiment en conformité avec la pédagogie Montessori ou proche de la pédagogie Montessori, puisque maintenant il existe aussi beaucoup d'écoles déjà privées sous contrat qui proposent la pédagogie Montessori dans leur classe, donc peut-être une pédagogie Montessori adaptée, mais qui le font très très bien. Moi je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'écoles dans lesquelles nous allons dispenser des formations auprès des professeurs et qui mettent en place cette pédagogie d'une manière formidable. Donc, il n'y a pas que des écoles où il est écrit Montessori dessus, où la pédagogie est vraiment pour le bien-être de l'enfant. Donc, il existe beaucoup d'écoles privées sous contrat dans lesquelles on va former les enseignants. Il existe aussi dans le système public des enseignants qui pratiquent la pédagogie Montessori d'une manière formidable, extraordinaire et qui justement permettent aux enfants de bien apprendre, de s'épanouir, d'être heureux, d'avoir un contact bienveillant entre eux, avec l'enseignant, etc. Donc, ce qui est important déjà en tant que parent, quand vous cherchez une école pour votre enfant, c'est si vous souhaitez bien sûr qu'elle soit en relation avec la pédagogie Montessori, c'est de lire un livre en fait de ou sur la pédagogie Montessori. Donc moi, je conseille toujours de lire un livre qui s'appelle Maria Montessori, sa vie, son œuvre, de E. M. Standing. Maria Montessori, sa vie, son œuvre, de E. M. Standing. On vous mettra le lien sur le blog Les Adultes de Demain. Mais si vous pouvez lire ce livre, déjà, ça vous donnera beaucoup de critères sur qu'est-ce que c'est que la pédagogie Montessori, comment elle a été créée, quels étaient ses objectifs. Et du coup, vous partez déjà avec des connaissances sur cette pédagogie, ce qui est vraiment très important. Et certaines choses, du coup, vous sauteront aux yeux en étant positives ou négatives, bien sûr. Ensuite, c'est important d'obtenir un rendez-vous auprès des dirigeants ou alors des enseignants de l'école. Donc, une des choses très importantes, c'est de s'assurer que les professeurs qui enseignent à vos enfants, de maternelle ou de primaire, soient diplômés Montessori. Donc après, il existe une foule de diplômes Montessori. Donc il y a bien sûr les diplômes de l'Association Montessori Internationale, qu'on dit aussi AMI, mais il n'est pas indispensable que les gens soient diplômés de l'AMI. Moi, je sais que je trouve que cette formation est beaucoup trop rigide, beaucoup trop fermée, beaucoup trop rigide, oui, je dirais. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment important de s'ouvrir aussi à plein d'autres choses qui ont été observées, qui ont été mises en place et qui enrichissent ce que l'on peut offrir aux enfants à l'école. Donc, il est quand même important que les gens aient un diplôme Montessori, donc pas forcément non plus le nôtre, hein, parce que vous savez qu'on on dispense des formations Montessori avec notre organisme de formation Apprendre Montessori, plusieurs types de formations, hein, une formation qualifiante sur un an, des formations qui ne durent que 5 jours, la formation sur un an, hein, qui dure sur une année avec des stages en classe, plus des formations sur le matériel, plus des conférences sur de nombreux sujets, les personnes ont des devoirs à nous rendre qui sont corrigés, qui sont suivis par une tutrice qui enseigne bien sûr depuis de nombreuses années. Donc notre diplôme Montessori évidemment, mais il existe aussi d'autres formations Montessori qui sont de qualité. Il faut voir aussi bien sûr si c'est une formation de 5 jours, bah, si la personne a déjà une formation d'enseignante, ça peut être suffisant, mais si la personne n'était pas du tout enseignante et qu'elle décide d'enseigner le Montessori avec une formation de 5 jours, c'est pas possible parce que c'est difficile. Donc vraiment déjà demander si les gens sont formés à la pédagogie Montessori, comment, s'ils ont une expérience avec la pédagogie Montessori, parce que ça c'est aussi important d'avoir une expérience, parce que c'est une pédagogie qui est difficile à enseigner. Hein, c'est une pédagogie individualisée, il y a énormément de matériel, on doit suivre chaque enfant, on doit savoir les observer, on doit savoir proposer ce qui est bien pour eux. Donc il est vraiment impératif de savoir quel diplôme ont ces personnes, combien de temps a duré leur formation, quelle est leur formation, et est-ce qu'ils suivent régulièrement des stages de remise à niveau, parce que c'est vrai que les choses évoluent et que on peut tomber facilement dans un train-train qui n'est pas positif. Pour moi, il faut aussi qu'un des dirigeants de l'établissement ait suivi une formation Montessori sérieuse. Aujourd'hui, pour ouvrir une école Montessori, il faut avoir enseigné 5 ans dans l'éducation nationale ou alors avoir été surveillant pendant 5 ans. Donc, ce qui n'est pas du tout une garantie d'être un bon dirigeant d'école Montessori. Et pour moi, les dirigeants qui n'ont pas été formés parce qu'ils disent qu'ils ne font que que suive la gestion, c'est pas positif, parce qu'en fait, pour animer une équipe, pour savoir si dans les classes ce qui se passe c'est correct ou c'est pas correct, pour savoir si le matériel est bien installé, pour savoir si les présentations qui sont faites aux enfants sont bien faites, pour savoir si le suivi des enfants est correct, il faut vraiment avoir suivi une formation Montessori, avoir été beaucoup dans des classes Montessori, et ça c'est vraiment pour moi indispensable. Pour moi, il serait indispensable aussi que la personne ait enseigné, hein, parce que comment diriger des gens et dire faut faire ci, faut faire ça, si on n'a pas enseigné. Ce qui serait encore mieux, c'est que la personne enseigne encore aujourd'hui, parce que moi je remarque avec 30 ans d'expérience que les enfants d'il y a 30 ans n'ont rien à voir avec les enfants d'aujourd'hui. Et que donc il faut vraiment être au contact avec les enfants pour pouvoir animer une équipe qui est au contact avec les enfants. Donc pour moi, ça c'est indispensable, qu'au moins un des dirigeants de l'établissement, celui qui est le plus en contact avec les enfants, avec les enseignants, ait une expérience d'enseignement Montessori, ou soit diplômé Montessori. Je pense que ça, c'est indispensable, même pour l'embauche, pour énormément de choses. Je le vois tous les jours, le fait d'enseigner change énormément les choses. Bien sûr, dans le cas d'un établissement qui propose le collège ou le lycée Montessori, bon, le lycée aujourd'hui, ça n'est, y a que le nôtre, c'est important aussi que les gens aient ce bagage Montessori de la maternelle et du primaire pour ou alors aient fait des stages afin de comprendre vraiment les bases fondamentales de cet enseignement. Si des activités artistiques sont organisées, c'est pareil, il faut qu'elles soient vraiment dans le même état d'esprit que la pédagogie Montessori, c'est-à-dire respect de chacun, développement sensoriel, mais surtout le respect de chacun. Que ce soit pour le sport, que ce soit pour la musique, que ce soit pour l'art, c'est vraiment fondamental. Et que ce soit individualisé, hein, qu'on tienne vraiment compte des aptitudes de chacun, qu'on les encourage, qu'on essaye de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'on adapte l'enseignement à chacun. Donc en musique, il existe des méthodes, mais qui s'appellent la méthode, par exemple, Marie-Jaël Montessori, mais il n'est pas indispensable, évidemment, que les professeurs qui enseignent la musique aient fait cette formation, mais il est important qu'elles sachent individualiser leur enseignement. Ensuite, ce qui est très important, c'est de demander la possibilité de visiter les classes quand il y a les élèves. Évidemment, pas d'y rester parce que c'est, moi j'ai des parents qui demandent de rester un certain temps dans la classe, mais là c'est pas possible parce que si tous les jours il y a des nouveaux parents qui restent un certain temps dans la classe, c'est extrêmement perturbant pour les enfants de voir des adultes différents tous les jours défiler, et c'est aussi très difficile pour les enseignants d'avoir ces adultes qui défilent. Mais faire une petite visite rapide avec la direction ou avec la direction, ça c'est tout à fait possible et ça me semble très très important. Et donc, quand on fait cette visite, il y a des choses que l'on peut voir très vite en passant. Donc déjà, voir si dans une même classe, les âges et les niveaux sont mélangés. Donc je parle en maternelle et en primaire. En collège, c'est parfois plus difficile, mais je sais que nous, dans notre collège Montessori Athéna de Bailly, en collège, les enfants sont parfois mélangés 6e, 5e, 4e, 3e. Puisque le mélange des âges, c'est quand même un critère important de développement de certaines valeurs cher à notre pédagogie. Bon, bien sûr, en seconde, première, terminale, c'est plus difficile parce qu'il y a des examens à préparer et que là, c'est plus compliqué. Ensuite, il faut bien observer l'environnement qui doit être très, très bien préparé. Donc, dans les classes de maternelle et primaire, on doit voir sur les étagères, à portée des enfants, toute une quantité importante de matériel éducatif Montessori dans des domaines comme la vie pratique, la vie sensorielle, les mathématiques, le langage, l'histoire-géographie, les sciences, la lecture, etc. Donc, il doit y avoir du matériel Montessori, mais bien rangé. Hein, l'ordre est vraiment un critère très important. L'ordre, la propreté sont des critères très importants. Une certaine clarté, pas trop de choses sur les murs. Voilà, une ambiance, comme on dirait, entre guillemets, zen, où l'enfant a tout à sa disposition. Et par contre, pas trop de placards fermés où l'enfant n'a pas accès, parce que théoriquement, il doit avoir accès à tout. Et surtout, un environnement rangé. Donc le travail, il faut poser des questions, observer si chaque enfant fait un travail individuel. Chaque enfant doit faire un travail différent. Bon, bien sûr, on peut voir deux enfants sur un même tapis ou autour d'un même matériel parce que l'entraide est aussi importante, mais ça ne doit pas être un cours magistral. Il doit y avoir du travail individuel. Donc s'assurer aussi que l'enseignant a une progression par enfant et qui suit chaque enfant individuellement avec ses propres objectifs. Ça, c'est une question que vous pouvez poser, mais vous pouvez voir aussi si l'enseignant se déplace de l'un à l'autre, fait des présentations. Là, on voit si la pédagogie est individualisée. Donc, le moins possible de cours magistraux, bien sûr, s'ils font des petites chansons, s'ils font la date sur le regroupement, sur le cercle, demandez combien de temps le regroupement dure, parce que le regroupement doit être un moment important, hein, où l'enfant apprend à écouter les autres, à écouter l'enseignant, à parler à son tour, etc. Il y a des valeurs importantes, mais le regroupement doit être court, et ensuite, ça doit être basé sur le travail individuel, que ce soit en maternelle ou en primaire, du travail individuel avec des classes d'âge mélangées. Hein, donc en maternelle, les classes peuvent être mélangées de 3 à 6 ans, ou maintenant 2 ans et demi, 6 ans, ou 2 ans et demi, 5 ans. En primaire, elles doivent être mélangées 6, 9 ans, 9, 12 ans. Là, je parle pour une école proprement Montessori. Dans les écoles privées que je vous citais, parfois c'est des mélanges, petite section, moyenne section, grande section. De plus en plus, les enseignants mélangent les âges aussi. Et ça me semble vraiment un critère important. Ensuite, vous pouvez me demander si les matières comme l'histoire, la géographie, les sciences sont bien enseignées en maternelle et primaire et comment. Hein, parce que nous, dans la pédagogie Montessori, il y a énormément de matériel de sciences, des puzzles de botanique, de zoologie, des cycles de vie. Et ça doit être enseigné des tout petits, les cartes de géographie avec les puzzles, les cartes puzzles des continents, les cabinets botaniques. Donc ça doit faire partie de la classe aussi en maternelle. En élémentaire, vérifiez bien qu'ils enseignent ce qu'on appelle les grands récits de Maria Montessori. Donc, ils doivent commencer par le Big Bang, le système solaire, l'apparition des êtres vivants, etc. Parce que ce sont des sujets qui mêlent histoire, géographie, science, qui font un lien, physique, chimie, etc. Et qui sont importantes pour que l'enfant comprenne d'où l'on vient, pour qu'il comprenne que tout est lié. Et ça, c'est vraiment des enseignements importants. Bon, dans les écoles privées, parfois, c'est pas possible parce que les gens ne sont pas formés. Mais voyez quand même la place des sciences, de la géographie, de l'histoire dans l'enseignement. C'est quand même très important. Donc, il faut aussi que l'enfant ait à sa disposition un certain nombre de supports papier. Hein, on dit souvent, la pédagogie Montessori, c'est que le matériel, mais il est aussi important que l'enfant puisse réaliser ce que l'on appelle des petits livrets, c'est-à-dire des petits livres où il va colorier les parties, par exemple, d'une fleur, mettre le nom dessous, colorier, mais c'est des feuilles individualisées, colorier les parties d'un animal, faire les cycles de vie. Mais ça, c'est très important que les enfants aient quand même un retour sur un papier qu'ils peuvent ramener à la maison, et comme ça, vous pouvez suivre aussi ce que l'enfant fait dans sa classe. Dans les collèges et lycées, on doit aussi limiter pas mal les cours magistraux et individualiser le plus possible la pédagogie. Donc en général, basé sur des plans de travail, parce qu'en fait, il est important de suivre les programmes de l'éducation nationale. Je sais que nous aussi, en élémentaire, c'est une de nos bases de suivre les programmes de l'éducation nationale. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des plans de travail, des cahiers d'activités Montessori, pour être sûr que ne pas marginaliser l'enfant, et que s'il y a besoin que l'enfant se réintègre dans le système, il puisse le faire. Et aussi qu'il puisse réussir les examens. Ça, c'est très important. Ensuite, vous pouvez poser aussi des questions lors de votre rendez-vous sur la position de l'établissement par rapport aux problèmes de discipline. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'absentéisme, au niveau de la violence, de la drogue? Il faut surtout ne jamais oublier que les punitions ne servent à rien et que Maria Montessori a écrit « pas de récompense, pas de punition ». Donc en fait, pas de punition, il faut se dire aussi que parfois, quand il y a des problèmes importants, c'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui est violent vis-à-vis des autres, il faut protéger les autres. Donc, nous, on a souvent ce qui s'appelle la chaise à réfléchir, c'est-à-dire que l'enfant est dans la classe, hein, sur une chaise, pour réfléchir. Parce que parfois, il faut isoler l'enfant, hein, pas isoler complètement, hein, le mettre en isolement, mais l'éloigner, qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait, qu'il se rende compte que c'est pas possible. Mais il doit y avoir un dialogue, il faut pas le mettre au coin puni ou le mettre dans le couloir comme j'ai lu il y a 2 jours sur une fiche d'une de nos stagiaires dont l'enfant était dans une école Montessori où on excluait l'enfant de la classe et où, parce qu'il voulait pas chanter en anglais et qu'on l'obligeait. Ça, c'est pas possible. Donc un enfant qui perturbe, on lui dit que là c'est pas possible, qu'il y a un manque de respect par rapport aux autres, donc il va aller réfléchir si son attitude est convenable ou si elle n'est pas convenable. Et quand il est prêt, il peut revenir. Ou alors, peut y avoir des discussions autour d'une table de paix où là, c'est parfois où c'est les enfants entre eux ou il y a un adulte qui peut intervenir si ça va trop loin. Mais on ne doit pas laisser non plus les enfants faire n'importe quoi. Mais pas de récompense, pas de punition. Donc, demander quelle est la position de l'établissement par rapport à tout ça. Demandez aussi comment justement l'enseignement respecte le rythme et l'autonomie des élèves, mais tout en respectant les programmes de l'éducation nationale. Parce que ça me semble vraiment fondamental de respecter les programmes de l'éducation nationale. J'ai vu des écoles Montessori où il n'y avait pas du tout ça, et je pense que ça, on n'a pas le droit de faire ça parce que l'enfant, par exemple, il pouvait savoir faire des racines carrées, mais il ne savait pas très bien lire. Donc il y a quand même des bases à respecter, c'est fondamental. Il faut aussi que vous sentiez, ça c'est lors de vos visites, que l'enfant va librement poser des questions à l'enseignant, mais aussi que l'enseignant va vers eux. Hein. On peut pas demander à un élève, il y a des élèves qui sont timides, on peut pas les forcer à se déplacer. Donc il faut vraiment voir comment ça se passe, comment aussi le sens des responsabilités est géré, la gestion du travail, ça c'est important. Donc voir comment tout ça se passe. Comment aussi, quelles méthodes sont mises en place par l'école pour ne pas marginaliser les élèves et pour permettre à chacun de se réintégrer facilement en cas de déménagement, de problèmes financiers ou autres. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une des réponses, c'est de respecter les programmes de l'éducation nationale. Mais demander comment ça se passe si vous êtes amené à déménager, s'il y a un problème financier, etc. Comment ça se passe? Parce qu'il faut vraiment que l'enfant soit préparé à ça. C'est important. Il y a un certain nombre de critères à respecter. Ça, je pense que c'est important. Quand vous visitez, il faut observer aussi l'enseignant et son comportement, parce que son apparence, elle doit être avenante, sereine. Donc, le rôle de l'enseignant, c'est d'être un observateur discret. Vous voyez, donc quelqu'un qui prenne pas trop de place, un guide pour chacun. On voit tout de suite la personne qui va de l'un à l'autre. L'enseignant doit parler doucement, ne doit jamais être assis. En général, il n'y a pas de bureau, hein, encore moins un bureau sur une estrade. On doit voir l'enseignant qui passe de l'un à l'autre, qui fait des présentations individuelles, qui conseille, mais qui ne dirige pas avec autorité. Hein, elle doit veiller aussi à ce que chaque enfant soit occupé et soit serein. Donc, je vous disais, souvent, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un établissement Montessori près de chez vous, alors les tarifs sont trop chers, puisqu'on sait très bien que les tarifs souvent sont élevés parce qu'on est obligé de prendre en charge tous nos frais et que c'est souvent difficile. Et donc, un certain nombre de critères, même si c'est pas une école Montessori, sont importants. Donc c'est évidemment la première chose, accepter que les parents puissent visiter l'école quand les enfants sont en train d'étudier. Et là, vous voyez aussi si les enfants ont confiance en l'adulte, s'ils savent se concentrer, quelle est l'ambiance aussi. Donc ça, c'est important. Lors de cette observation, vous devez voir aussi des enfants souriants, des enfants sereins, heureux, concentrés, qui se déplacent librement hein, dans la classe, mais calmement, pas qui courent à travers la classe. Des professeurs aussi qui sont souriants, qui sont calmes, qui sont discrets, qui parlent pas fort. Ça, c'est très important. Leur habillement aussi doit être habillé correctement, d'une manière harmonieuse, ne pas être autoritaire. Il faut observer les enfants aussi, vous dire est-ce que ces enfants se sentent bien? Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont dans un coin? Ou alors, dans ce cas-là, vous posez la question, hein, parce que parfois, c'est un choix de l'enfant aussi. Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont l'air tristes, qui ont l'air inoccupés? Il faut que vous voyez la façon dont ils s'adressent aux professeurs, que ça doit être d'une manière sereine, qu'il n'y a pas d'appréhension, pas de crainte. Des enfants vraiment qui se sentent bien, même vous le sentez ça, qui se sentent bien dans l'ambiance. Ensuite, il faut observer aussi, comme je vous disais, l'environnement hein, de la classe. Donc que la classe soit bien rangée, propre, esthétique et lumineuse, bien sûr. Hein. Pas trop bien décorée, mais pas trop de décor, hein. un environnement serein. Donc les tables aussi soient disposées de manière à créer un environnement convivial, hein, parce que ces tables rangées les unes derrière les autres, il faut que ce soit convivial et il faut que les élèves puissent se déplacer librement sans déranger les autres. Comme je vous disais tout à l'heure, en général, il ne faut pas que l'enseignant ait un bureau, hein, il faut qu'il voilà, il se déplace. C'est lui qui se déplace, il va vers les élèves. Souvent demander si les élèves ont des places fixes, parce que je pense que c'est important aussi que les élèves puissent choisir leur place et ils n'ont pas toujours envie d'être à la même place à côté du même enfant. Demander aussi si les enfants sont libres aussi d'aller aux toilettes, parce que ça c'est un critère que je trouve très important. Ce côté où il faut aller aux toilettes tous en même temps, pour moi c'est vraiment impossible quoi. Donc c'est important que l'enfant puisse aller aux toilettes librement quand il en a envie. Ensuite, demander bien sûr quels sont les, par rapport au programme pédagogique, quels sont leurs grands principes. Est-ce qu'ils suivent une méthode particulière, hein, parce que vous n'allez pas être forcément dans une école Montessori. Donc s'ils suivent une méthode particulière, quelle est cette méthode? Quelles sont les valeurs qui sont développées, hein, puisque vous savez très bien que dans la pédagogie Montessori, les valeurs sont le respect de l'enfant, l'autonomie, une certaine liberté, la politesse, le respect aussi entre les enfants, le libre choix du matériel. Est-ce qu'il y a des matières artistiques qui sont enseignées? Quel est le temps qui leur est consacré? Est-ce que les enfants font du sport? Combien de temps? Avec qui? Aussi, une chose qui est importante, c'est est-ce qu'il y a des sorties, des voyages? Les sorties sont importantes parce que Maria Montessori disait qu'à l'âge de l'élémentaire, les enfants ont besoin d'aller observer le monde à l'extérieur. Ils ont besoin d'aller voir ce qui se passe dehors. Et puis aussi, c'est une manière de s'entraîner à avoir un bon comportement à l'extérieur. Donc ça, c'est important aussi. Bon, ensuite, il y a des critères qui sont importants, mais que vous n'aurez pas toujours. Est-ce qu'il y a une langue étrangère qui est enseignée et comment elle est enseignée? Donc, c'est vraiment important, si c'est enseigné depuis l'âge de la maternelle et de l'élémentaire, ce qui, pour moi, est fondamental. Ça doit être enseigné en immersion totale par des professeurs de langue maternelle ou des professeurs vraiment totalement bilingues, hein. Et un certain nombre d'heures minimum par semaine, parce que sinon, si c'est une heure par semaine, moi, ça sert pas à grand chose. Bon, l'enfant est quand même entend la langue, mais il faut que ce soit davantage. Et il faut que ce soit en immersion totale, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de traduction. Hein, on sait très bien qu'il faut penser dans la langue. Hein. Vraiment, faut penser. Donc, dans les collèges et lycées, comme j'ai dit, hein, il est fondamental de respecter les programmes de l'éducation nationale, donc toutes les matières, pour que les élèves soient bien préparés aux examens. On ne peut pas amener des élèves vers la troisième, vers la cinquième, sans les préparer vraiment aux examens. Demandez aussi les critères d'évaluation. Hein, est-ce qu'il y a des bulletins trimestriels? Est-ce qu'il y a des rendez-vous réguliers avec les parents? Quelles sont les relations avec les parents? Les bulletins trimestriels, c'est important aussi pour que vous puissiez suivre ce que l'enfant fait. S'il n'y a pas de bulletin, bah des rencontres, hein, puisque maintenant, il existe des applications que l'on peut avoir et partager avec les parents. Par exemple, nous, on se sert de Jeux Valides. C'est intéressant parce que les parents peuvent suivre ce que les enfants font, Et puis après, il faut évidemment qu'il y ait des bulletins plus grands parce qu'ils en auront besoin pour leur dossier. En principe, il ne doit pas y avoir de notes, hein, en maternelle, surtout pas en primaire non plus. C'est inutile, les notes, qu'est-ce que c'est que cette évaluation? Et puis, il faut aussi poser la question de la position de l'école par rapport au redoublement. Hein, on sait aujourd'hui que les redoublements, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut vraiment avoir la position de l'école par rapport à ça. Et aussi par rapport au saut de classe. Hein, on sait très bien qu'aujourd'hui, un enfant précoce, il doit avoir de l'avance, parce que sinon, il va s'ennuyer et il risque de perdre son goût d'apprendre. Mais saut de classe, ça ne veut pas dire de ne pas faire les choses. Je sais que nous, ce qu'on fait, c'est qu'ils font les choses plus rapidement. Ils apprennent à lire à 3 ans, ils font de la grammaire, ceux qui ont besoin, hein, bien sûr. C'est respecter aussi le rythme de l'enfant. Mais parce qu'un enfant précoce qui saute des parties du programme, c'est pas bon non plus. Hein, il faut les faire avancer plus rapidement. Donc, si on vous dit manque de maturité, ceci, cela, non, l'enfant précoce qui a un QI important, il a besoin d'avancer plus vite. C'est vraiment un besoin et c'est indispensable. Je vois trop d'enfants précoces en échec scolaire aujourd'hui. Demandez aussi comment est organisée l'année scolaire. Est-ce qu'on fête les fêtes traditionnelles? Est-ce qu'il y a des spectacles? Est-ce qu'on fête les anniversaires? Tout ça, c'est des choses importantes qui rendent l'école plus conviviale aussi et qui jalonnent d'événements qui sont agréables pour l'enfant. Demandez aussi comment ils accueillent les enfants précoces, les enfants dyslexiques, etc. Est-ce qu'ils adaptent vraiment l'enseignement aux enfants qui en ont besoin? Après, quelle est leur position aussi face aux devoirs? Parce que les devoirs et les leçons, on a eu une élève qui était en sixième dans une école et qui avait 3 heures de travail chaque soir. Bon, ça, c'est pas possible. Un élève, déjà en CP, CE1, il devrait pas avoir de devoirs. Et plus tard, nous, on donne des devoirs, mais on les donne une semaine à l'avance et ils ont très peu de temps chaque jour. On en donne parce qu'il faut que l'enfant aussi apprenne à apprendre par cœur, pour moi. Des mots invariables, des dictées, des poèmes. Ça fait partie de son bagage culturel. Mais même plus tard, l'enfant ne doit pas avoir trop de devoirs. C'est pas possible. Et donc voilà, je pense que là, je vous ai donné un certain nombre de critères. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de se promener dans l'école quand vous visitez, de vraiment observer, de sentir et de vous dire, est-ce que moi, j'aimerais retourner dans cette école? Est-ce que j'aimerais être dans cette ambiance? Et est-ce que je vois des élèves souriants? Est-ce que chacun a gardé sa propre personnalité? Est-ce qu'ils sont pas tous habillés pareil? Est-ce qu'ils sont pas éteints? Est-ce qu'ils parlent librement aussi? Si vous leur posez des questions, est-ce qu'ils vous répondent librement? Est-ce qu'ils ont pas l'air d'avoir peur, d'être, très, avec une timidité un peu excessive? Bon, ça peut arriver puisqu'on respecte aussi les enfants timides. Et il faut les sentir aussi, par rapport à l'adulte, confiants avec leur professeur, hein. Bon, je sais que nous, ils tutoient leur professeur, ils leur parlent avec respect et bienveillance, mais ils les tutoient, ce qui donne une plus grande proximité. Bon, c'est pas indispensable, mais il faut sentir la relation qui existe entre les enseignants et les élèves, qui est beaucoup concentre de la gentillesse, de l'empathie, de la compréhension. Donc voilà, j'espère vous avoir donné des éléments qui vont vous aider dans le choix de l'école pour vos enfants, parce que c'est vrai qu'ils y passent beaucoup beaucoup d'heures et que c'est assez fondamental de trouver le bon endroit.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.